La musique vous est-elle agréable?
Deuxième tiroir à droite.
Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui se profile. Nouvelle année que je vous propose de commencer avec un petit saut spatio-temporel, direction les années 60 et New York. Cette semaine, je vous invite à venir explorer les bas-fonds de la ville avec The Velvet Underground. Précurseur de la musique funk et haut représentant du rock indépendant, ce groupe aujourd'hui devenu culte est loin de l'avoir toujours été. Ce sont 4 albums studio et la dissolution du groupe au début des années 70 qui vont progressivement les faire devenir une référence dans le monde du rock. Kevin Morby, dont je vous parlais le mois dernier, et David Bowie, entre autres, sont de ceux qui ont été profondément marqués et inspirés par ce groupe hors norme. Le Velvet Underground, c'est avant tout un certain Lou Reed et John Cale, un gallois joueur d'alto et de piano. Ils se rencontrent tous deux à la fin de l'année 64 et enregistrent The Ostrich, une chanson qui plus tard donnera son nom à l'accordage particulier de guitare qui y est utilisé. Les deux artistes se produisent alors sous le nom The Primitives. Après être devenus The Warlocks, puis The Falling Spike, et après avoir été rejoints par Sterling Morrison, un ami d'université de Lou Reed, et Angus MacLise à la batterie, le groupe devient The Velvet Underground. The Velvet Underground, le souterrain de velours, comme le titre du livre de Michael Leigh, paru en 1963, qui nous plonge au cœur d'un New York débridé, en quête sur les pratiques sexuelles interdites, le sadomasochisme, les lieux d'échangisme. Bref, un nom qui colle parfaitement à ce groupe ambivalent qui illustrera à merveille l'adage sexe, drogue et rock'n'roll. Au cours de l'année 65, les 4 comparses réussissent à enregistrer une démo et à faire une première partie rémunérée. Mais MacLise, poète idéaliste, ne peut concevoir d'être payé pour jouer. Il quitte donc le groupe après seulement quelques mois d'existence et c'est Maureen Tucker, la petite sœur d'un ami de Morrison, qui va le remplacer. Une femme à la batterie dans un groupe exclusivement masculin, c'est une première dans l'histoire du rock. Nous sommes en 1965, les 4 piliers du groupe sont posés. Reed, Cale, Morrison et Tucker, un socle qui connaîtra toutefois des mouvances 2 ans plus tard, mais nous y reviendrons. En attendant, le Velvet Underground égrène les bars de New York et quelques salles de ciné où il accompagne en direct des films expérimentaux. Et puis il joue au Café Bizarre, un bar assez sombre qui attire l'avant-garde artistique de la ville, dont Paul Morrissey, une proche fréquentation d'un certain Andy Warhol. Le Velvet Underground est alors invité à la Factory, le célèbre atelier du pop artiste alors en pleine ascension. À la Factory, on y peint, on y joue de la musique, on y tourne et projette des films, on y danse. Et selon Warhol lui-même, on y rentre anonyme et on en sort superstar. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vous en raconte plus demain. Même heure, même fréquence, vous êtes bien sur Divergence FM. Et tout de suite, c'est Venus in Furs.
Child in the dark comes and bells, your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious Severin, Severin, oh. The boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
La musique vous est-elle agréable ?
Salut à toutes et à tous. En 1965, le Velvet Underground atterrit donc à la Factory, l'atelier d'Andy Warhol qui réunit autour des arts, de la drogue et de la fête tant le milieu underground que VIP de New York. Warhol, qui à cette époque a délaissé quelque peu la peinture pour se consacrer à la réalisation de films, est très intéressé par la musique du Velvet Underground qui l'invite à jouer sur ses créations expérimentales. Erupting, d'une part, puis Exploding Plastic Inevitable, ces deux spectacles mêlent projection de films, performances artistiques sadomasochistes et musique. Le Velvet Underground joue pendant les projections et c'est à ce moment-là qu'il adopte le style vêtements noirs et lunettes de soleil pour ne pas attirer l'œil pendant les séances ni être ébloui par les projecteurs. Le Velvet Underground va alors devenir la véritable attraction des spectacles de Warhol. Warhol qui a aussi le sens des affaires et qui décide de produire le groupe. Mais il trouve que la formation manque cruellement d'un leader charismatique, nécessaire quand même pour faire des ventes. Il impose donc Nico, une chanteuse allemande à la voix sombre, qui n'en était toutefois pas à son coup d'essai. Mais Lou Reed et John Cale ne lui concéderont que 3 chansons sur les 11 titres de leur premier disque, qui sera enregistré au cours de l'année 66. En parallèle, le groupe, lancé grâce à la notoriété de Warhol, démarre une tournée en Californie, Mais malheureusement, l'expérience tourne court. Et oui, il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, sur la côte ouest des États-Unis, le mouvement hippie diffuse largement son amour, son soleil et ses fleurs. Autant dire qu'avec son concentré de noirceur et de drogue dure, la mayonnaise du Velvet Underground ne prend pas. Le groupe rentre bredouille, mais finit quand même par trouver un label qui accepte de publier son premier album. Ce sera donc chose faite en mars 1967. Alors ce n'est pas un flop direct, les ventes démarrent pas mal, mais un contentieux en lien avec la photo figurant au dos de la pochette du vinyle va obliger le label à retirer le disque des bacs, et quand il y reviendra, eh bien les ventes ne reprendront pas. Au total, seulement 30 000 exemplaires vendus dans le monde. Mais chacun de ceux qui l'ont acheté a fondé un groupe, dira plus tard Brian Eno. Un flop donc pour un album pourtant devenu aujourd'hui une référence. Un album dont le contenu est aussi provocateur que son contenant. Je vous rappelle que ce premier disque intitulé The Velvet Underground, un Nico, bien que celle-ci ne chante que trois chansons donc, est aussi communément nommé l'album à la banane. Oui, en référence à la pochette sur laquelle une banane avait été sérigraphiée par Andy Warhol lui-même. À l'époque, cette banane était un sticker que l'on pouvait peler et décoller. On y découvrait alors une chair rose très équivoque. La pochette donne le la, univers très sexe donc, avec notamment le titre Venus in Furs, inspiré du roman sadomasochiste du même nom. Très rock aussi avec le titre Run 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 par exemple. Et très drogue évidemment avec I'm Waiting for My Man, dans laquelle Lou Reed évoque l'attente de son dealer. Ou encore l'apothéotique Héroïne, dans laquelle il chante son amour et son addiction à l'héroïne pendant plus de 7 minutes. Allez, on en écoute un extrait de cet album phare. Voici de suite Femme Fatale avec Nico cette fois-ci. À demain sur Divergence FM.
Vous est-elle agréable?
Salut tout le monde, univers sombre, vénéneux, impur, tel est donc le monde dans lequel nous plonge le Velvet Underground avec son premier album, celui à la banane, en 1967. Le tout premier titre de ce disque, Sunday Morning, dont vous reconnaîtrez d'ailleurs quelques touches dans le célèbre No Surprises de Radiohead, nous méprend quelque peu sur ses intentions. Cette chanson nous paraît presque légère et ensoleillée. Mais non, en réalité, elle parlerait de paranoïa aiguë et surtout, elle ne présage en rien de la suite. Chanson sur les pratiques sexuelles déviantes, les junkies, le rock'n'roll, le tout sur fond de batteries minimalistes et d'envolées stridentes d'alto électrique, nous plongeant dans une ambiance ténébreuse et malaisante. Voilà donc les ingrédients du premier disque du Velvet Underground qui n'ont clairement pas convaincu les radios de l'époque. Il ne faut pas non plus oublier que l'année 67, outre le fait d'être l'année du Summer of Love, aux antipodes de l'état d'esprit du Velvet Underground, est aussi, selon les Inrock, l'année de la plus grande concentration de chefs-d'œuvre de l'histoire du rock. Cette année-ci, les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Doors, les Pink Floyd, Led Zeppelin font parler d'eux. Il n'y a pas vraiment de place, pas encore, pour le Velvet Underground. Pas vraiment le succès donc, mais qu'importe, les quatre acolytes poursuivent leur chemin. Et moins d'un an après, le groupe sort son deuxième disque en janvier 68, White Light, White Heat. Comme son nom ne l'indique pas, cet album n'a rien de blanc, bien au contraire. La pochette, pour commencer, est toute noire avec en filigrane difficilement visible une tête de mort. Les morceaux sont clairement expérimentaux, dissonants, crissants, sauvages, adieu balade mélodique et bonjour avant-garde bruitiste. 6 titres seulement et 6 titres conceptuels, anti-beauté, comme le dira John Cale lui-même. Sur Call My Name, par exemple, on y entend 2 guitares désaccordées. Sur Lady Godiva's Operation, Lou Reed relate une opération chirurgicale sous anesthésie défaillante. Et puis sur le fameux Sister Ray, le groupe joue en totale improvisation sur fond d'orgue et de guitare saturée pendant pas moins de 17 minutes. Ce titre ne manquera évidemment pas de marquer la discographie du groupe. Pour cet album, les 4 comparses ont dit au revoir à Nico, sans trop de surprise, mais également à Andy Warhol, avec qui ils gardent toutefois des liens. C'est alors Steve Sesnick qui devient leur manager. Mais malheureusement, une fois de plus, le succès de ce deuxième album n'est pas au rendez-vous. Le groupe peine à atteindre la 199e place dans le classement des ventes du pays. La situation commence à dégénérer entre Lou Reed, qui aimerait davantage de reconnaissance commerciale, et John Cale, qui préfère privilégier l'expérimentation artistique. Leur tension amène John Cale à quitter le groupe après seulement 3 ans d'existence et 2 albums. Lou Reed, qui devient alors seul leader du groupe, remplace Cale par Doug Yeul, un musicien multi-instrumentiste à la culture pop très marquée, ce que Reed recherche justement. Allez, on s'écoute un extrait de cet album original. Voici le titre « White Light, White Heat ». Belle journée à vous sur Divergence. Watch that stuff to the top end. Watch that side, watch that side. No, it's not gonna be dead and right. Red foxy mama walks and walks down the street. Come outside, your head gonna make a dead end. Going insane.
watch as we forget from going negative.
La musique vous est-elle agréable ?
Bonjour à toutes et à tous. En cette année 1968, après l'échec commercial du conceptuel White Light, White Heat, le Velvet Underground remplace donc John Cale, l'un des deux fondateurs du groupe, par Doug Yule. Le groupe se mettra au travail très rapidement puisque dès 1969 sortira leur troisième album intitulé tout simplement The Velvet Underground. Comme si le Quatuor, et Lou Reed en particulier, avaient voulu repartir à zéro. Le Velvet Underground de 1969, ou l'album au canapé, en référence à la pochette sur laquelle on y voit le groupe assis sur un canapé, est clairement plus pop et posé que les précédents, une sorte de calme après la tempête. Lou Reed lui-même dira « J'en suis arrivé à un point où je préfère les jolies choses plutôt que la distorsion, parce que l'on peut être plus subtil et apporter ce calme dont beaucoup de gens semblent avoir maintenant besoin. » Globalement, le groupe y joue davantage de ballades folk sur des textes plus introspectifs. C'est le cas par exemple de « Pale Blue Eyes » que Lou Reed aurait écrite en souvenir de son premier amour, de « Jesus », chanson dans laquelle Reed demande de l'aide à Jésus, ou encore « That's the story of my life ». Mais Lou Reed, l'auteur et compositeur de tous les titres, n'en a pas pour autant perdu son style velvétesque. Dans la très douce chanson « Candy Says », par exemple, il parle des souffrances de Candy Darling, l'une des premières actrices transgenres ayant officié dans les années 60 sous la houlette d'Andy Warhol qu'il avait repéré. Et Reed lui consacrera également un passage dans son légendaire « Walk on the White Side ». Et puis il y a le chaotique « Murder Mystery », 9 minutes de libre expérimentation, 2 textes lus en parallèle, 4 voix, celles des 4 membres du groupe, bref un morceau qui reste dans les oreilles et dans les esprits. Et puis le disque s'achève sur la poétique « After Hours » sur laquelle Mo Tucker, la batteuse du groupe, s'improvise chanteuse. Elle raconte d'ailleurs avoir exigé que pour l'enregistrement, tout le monde sorte du studio, à l'exception bien sûr de Reed qui jouait de la guitare et de l'ingénieur du son, tellement elle angoissait de se livrer à cette expérience. Au final, sa voix hésitante, pas très assumée, n'en est que plus touchante. Le magazine Rolling Stones classera le disque parmi les 500 plus grands albums de tous les temps. Suite à la sortie de ce troisième album, le groupe partira en tournée en Amérique du Nord, tentant de trouver le succès ailleurs qu'à New York où il se fait attendre. Mais leur maison de disques en profite pour rompre leur contrat. La suite, demain, même heure, mêmes ondes, sur Divergence évidemment. En attendant, on se quitte avec un très joli extrait de cet album au canapé. Voici Pale Blue Eyes.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Your pale blue eyes.
thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on.
Vous est-elle agréable?
Bonjour tout le monde. Dernier jour pour vous parler du Velvet Underground, passé en quelques décennies du statut de groupe ignoré à celui de groupe adulé. passer des bas-fonds de New York à la lumière de la reconnaissance du milieu punk rock. En 1969, après un troisième album et une tournée de 70 dates, le groupe commence à se créer un cercle de fans qui enregistrent quelques bouts de concerts sur leur magnétophone. Mais les ventes de l'album ne sont pas folles et le groupe se fait virer de sa maison de disques. Le Velvet Underground réussit néanmoins à signer avec Atlantic Records, qui les prévient toutefois. Il doit écrire un album « loaded with hits », c'est-à-dire « chargé de tubes ». Qu'à cela ne tienne, Reed compose et écrit des chansons relax, drôles, commerciales, bien comme il faut, qui fonctionnent divinement bien. Des morceaux calmes comme « Cool It Down », « New Wave » ou « I Found a Reason ». Des morceaux plus énervés comme « Head Held High » ou la rockabilly « Lonesome Cowboy Bill ». Cet album contient quelques-unes des chansons les plus connues du Velvet Underground, telles que « Sweet Jane » ou « Rock'n'Roll », un hommage au rock du point de vue d'une petite fille à qui, voyez-vous, le rock'n'roll a sauvé la vie. Chanson dont les radios américaines s'enticheront rapidement. Et puis l'album compte aussi la chanson « Who Loves the Sun » aux sonorités très Beach Boys, petite raillerie anti-hippie et surfeur californien. Bref, l'album est bien chargé de tubes et pour cela sera logiquement nommé « Loaded ». Mais bon, ce nom a aussi une double signification, puisqu'en jargon junkie, « loaded » signifie « planer ». Et c'est probablement cette signification qui explique le visuel de l'album, une fumée rose, tel un éléphant hallucinant, s'échappant d'une bouche de métro new-yorkaise. En parallèle de l'enregistrement de « loaded », le Velvet Underground se produit au Max Kansas City. Écriture et prise de son le lundi et mardi, et scène du mercredi, au vendredi, le rythme est soutenu, Lou Reed est fatigué, affaibli par la drogue, et des tensions naissent avec Doug Yule. Lou Reed claque finalement la porte en août 1970, avant de monter sur scène et avant le mixage de l'album. Yule effacera sur certains morceaux la voix de Reed, pourtant déjà enregistrée, pour y poser sa propre voix. C'est donc Yule que l'on entend hurler sur « Head Held High ». Parallèlement, Mo Tucker, enceinte à ce moment-là, avait été remplacée par différents batteurs. Une fois de plus, la sortie du disque ne rencontre pas le succès espéré, mais Sesnick, le producteur ayant immédiatement succédé à Warhol, décide de lancer une tournée en Europe. Mais Sterling Morrison, le seul pilier restant avec Mo Tucker, ne suit pas et quitte le groupe pour se consacrer à l'enseignement de la littérature médiévale à l'Université du Texas. Morrison et Reed sont remplacés par Alexander et Powers, mais à l'issue de la tournée européenne, Sesnick vire tout le monde, même Mo Tucker, pour ne garder que Doug Yule, contre son gré d'ailleurs. Ainsi, le dernier album sorti sous le nom de The Velvet Underground en 1972, et qui s'intitule Squeeze, est en réalité un album solo de Doug Yule. Ainsi s'achève donc la courte vie de ce groupe ambivalent, premier groupe de rock arty qui marquera a posteriori la scène artistique de sa musique protéiforme et de son attitude distante et provocatrice. Reed et Cale, les deux membres fondateurs, longtemps restés en mauvais termes, se retrouveront toutefois pour un concert acoustique au Bataclan en 1972, puis au début des années 90 pour composer Songs for Drella, un album hommage à Andy Warhol décédé quelques années auparavant, en 1987. Ils repartiront également en tournée européenne avec Mo Tucker et Sterling Morrison jusqu'à ce que Reed et Cale se brouillent à nouveau et que Sterling décède. Depuis, le temps a fait son effet et le groupe est devenu culte. Allez, on se quitte avec le morceau Sweet Jane. Très bon week-end à vous sur Divergence.
Standing on the corner, suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Stutz Bearcat Jim, you know, those were different times.
all the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, the Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get her here. CJ! Come on, baby. CJ! CJ! Some people, they like to go out dancing, and other people say, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are